Bonjour, Raymond Richard au micro. Eh bien, nous sommes dans l'émission Terre solidaire. Et avec Chantal, nous allons sillonner la route des réfugiés à travers l'Europe et voir un peu pourquoi, comment, et écouter justement ce que nous disent ceux qui prennent la route. Donc, là, c'est la route des Balkans. Mais avant d'arriver dans les Balkans, eh bien, nous allons suivre Emma Dudine. Lui, nous vient d'Afghanistan.
Et plus précisément de la province de Kunduz, donc tout au nord, au nord-est du pays, sur la frontière avec l'Ouzbékistan. Donc déjà, il a dû traverser, marcher très longuement à l'intérieur de l'Afghanistan, puis traverser tout l'Iran, ce qui n'a pas dû être simple, parce qu'en tant qu'Afghan, ce n'est pas une frontière facile à passer, l'Iran. Et ensuite, donc, se trouver en Turquie, où, comme chacun sait, la Turquie a un jeu un peu trouble, en tout cas, en tendance à refouler les réfugiés. Et quand ils arrivent à passer, ils se retrouvent sur la soi-disant route des Balkans, Grèce et toute la partie de l'Europe du Sud.
Donc, reprenons. Il quitte son pays parce qu'il est coordinateur d'ONG.
Coordinateur d'ONG. Et surtout, ingénieur, formé par l'Occident, parlant parfaitement l'anglais. Et s'il a quitté son pays, ce n'est alors qu'il touchait certainement un salaire plus que convenable en étant avec une ONG étrangère. Mais c'est la menace de l'arrivée des talibans dans sa région. Et donc, il a décidé de protéger femmes et enfants et de prendre le baluchon pour arriver en Occident. Sa vie était menacée et comme la Convention de Genève le précise, tout individu, tout être humain sur cette terre qui est menacé, dont la vie est menacée, peut donc postuler en tant que réfugié politique.
Donc il est pris en charge par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés lorsqu'il arrive en Grèce.
Voilà, donc en Grèce, il est pris en charge. On lui donne donc de quoi se nourrir et se vêtir. Et c'est là qu'il dit qu'il lui a fallu donc 2000 euros en transport, passeur et assurer le quotidien, j'imagine. Bon, voilà, quelques morceaux de pain et du thé pour faire le trajet de Kunduz en Grèce.
À Lesbos, il a un visa qui lui accorde 72 heures pour traverser la Serbie.
Alors, pour ceux qui ont de la chance, c'est 72 heures. Pour d'autres, ça peut être un peu plus long et même parfois un peu plus acrobatique. Mais c'est la seule manière d'essayer de rattraper un train qui va l'emmener en Allemagne, la destination finale de ces réfugiés. Donc, Emma Nudine, en fait, elle reflète ce que vivent des centaines de milliers de réfugiés qui fuient la guerre aussi bien en Syrie, en Irak qu'en Afghanistan. Et d'autres aussi, ça c'est, on parle de la route des Balkans ce soir, donc c'est les trois principaux pays, Irak, Afghanistan et Syrie. Mais il y a aussi tous les réfugiés qui nous viennent du Sud et dont leur vie est également menacée, aussi bien en Érythrée qu'en Somalie. Donc là, on n'a pas affaire à des immigrés économiques, mais le HCR, le Haut Commissariat au HCR, donc le Haut Commissariat pour les réfugiés, disent bien que 90% d'entre eux sont réellement des réfugiés qui répondent aux critères de la Convention de Genève, que nous avons tous, tout pays membre, à signer, et donc on se doit d'observer notre engagement.
Donc effectivement, pour certains, c'est très difficile, et on a le témoignage du responsable du groupe 484. Le groupe 484, c'est une ONG basée en Serbie qui, déjà au moment des troubles dans cette région des Balkans, travaillait pour la paix entre les communautés vivant en Serbie. Et là, évidemment, ce groupe poursuit ce travail de rencontre avec les nouveaux venus. Donc, ces populations qui viennent de plus loin, d'Afghanistan. Et le responsable de ce groupe 484 nous dit qu'on a tout à fait intérêt à accueillir, parce que de toute façon, les populations, lorsqu'elles arrivent là, elles sont dans des situations très, très difficiles. Et arrêter, cela veut dire que l'on favorise la criminalité parce qu'il est possible d'acheter un faux passeport et aussi on se trouve dans la situation d'alimenter les mafias. Donc, il est plutôt important de favoriser ou en tout cas d'accueillir.
Et justement, tu mentionnais le groupe 484 et ils ont, eux, pensé que dans un premier temps, c'était de faire découvrir l'autre qui est toujours menaçant, effrayant. Ils ont voulu mettre en avant des actions pour nous montrer qu'en fait, il y avait tout intérêt à les intégrer.
Alors, des actions d'éducation, par exemple, des camps où on associait les jeunes de différentes cultures. Et en emmenant des jeunes de ces différentes cultures campées, ils s'apercevaient qu'en fait, avec celui avant qui était l'ennemi, eh bien, on pouvait aussi camper, partager, rire, faire un feu de camp. Et que peut-être cette expérience d'avoir partagé des temps de vacances ou des temps ensemble, s'être rendu compte que l'autre, finalement, dont j'ai peur parce que je ne le connais pas, quand je le connais, quand j'ai vécu avec lui, tout d'abord, il ne me fait plus peur ou il me fait moins peur. Et puis, finalement, j'ai tellement de connivence avec lui qu'on peut se demander, mais pourquoi ? Pourquoi la guerre ? Pourquoi s'affronter ?
Un jour, les enfants viendront. Un jour, les enfants diront qu'ils veulent habiter la terre sans verser le sang, et qu'ils ne feront pas la guerre quand ils seront grands. Un jour, les enfants viendront, un jour, les enfants diront qu'il le faut arracher la guerre jusqu'au fond du cœur. Des hommes et des militaires de toutes couleurs, ils vont réclamer la paix à tous les présidents.
L'émission Terre solidaire, et nous évoquons justement qui sont les réfugiés.
Alors là, sur la route des Balkans, on a rencontré Samir. Samir, c'est un jeune étudiant de Kaboul qui donc étudiait la médecine dans cette université afghane, et la présence des talibans ne lui permettait pas de continuer son cursus en toute sécurité, et il tenait absolument à poursuivre ses études, donc a pris la route, a traversé l'Iran à pied, se retrouve sur le chemin des Balkans comme les autres réfugiés et espère bien atteindre l'Allemagne grâce aux solidarités, bon an, mal an, des communautés, des sociétés civiles qu'il y a le long de la route, que ce soit en Grèce, en Macédoine ou en Serbie.
Donc là, Samir est étudiant. On voit que ses parents et sa famille se sont cotisés pour qu'il puisse terminer ses études en Allemagne. Donc lui a pris la route et finalement, il est quelque part favorisé. Et ça pose la question, ceux qui viennent finalement, ce sont ceux qui peuvent réunir de l'argent, mais les pauvres restent sur place sous la coupe des talibans en Afghanistan, sur place sous les bombes en Syrie.
En Syrie, exactement. On se rend compte que les budgets pour payer aux passeurs ou pour le transport sont énormes. Ça varie de 2 à 6 000 euros, ce qui est une somme énorme quand on compare au niveau de vie de l'Irak ou de l'Afghanistan. Donc, c'est effectivement des personnes, disons, aisées, ou en tout cas qui ont les moyens, qui ont eu la possibilité d'économiser. Donc, finalement, ce sont des jeunes qui sont éduqués, qui appartiennent à la bourgeoisie, petite bourgeoisie, donc très facilement intégrables en Europe ou pas ?
Facilement intégrables si on tient compte de leur formation. Alors évidemment, il y a le problème de la langue, il va falloir qu'ils apprennent l'allemand ou l'anglais ou le français, mais en fait, ce sont des populations que l'on a tout à fait intérêt, même c'est bénéfique pour nos sociétés, de les accueillir. Et je crois que le plan de Mme Merkel, c'est justement celui-ci. Dans une Allemagne vieillissante, où la démographie montre un vieillissement de la population, accueillir des populations formées, c'est peut-être bénéfique.
En plus, elles sont forcément dans ces pays-là, ils sont de naissance trilingues. Donc apprendre une quatrième langue est encore plus facile que quand on n'a jamais appris aucune langue étrangère. Donc ils vont être beaucoup plus facilement intégrables. Par exemple, je me souviens quand je faisais mes cours d'alphabétisation, il était beaucoup plus facile d'apprendre le français à quelqu'un dit de 40 ans, mais qui connaissait déjà une langue ou deux, alors que quelqu'un qui avait 18 ans et qui était analphabète. Donc ces gens qui sont éduqués vont apprendre très rapidement nos codes de culture et notre langue.
Et pourtant, on assiste à une crise de la solidarité. Et il y a la tentation de fermer les frontières. On voit de plus en plus de pays d'Europe de l'Est. Alors remarquons aussi que ce sont les pays d'Europe de l'Est, c'est-à-dire ceux qui ont intégré l'Europe plus tardivement et qui ont les niveaux de vie les plus faibles en Europe.
Oui, alors effectivement, ils ont une tendance à se fermer sur eux, quoique les sociétés civiles et les associations locales, quand même, partagent avec ces réfugiés les derniers kilos de pommes ou les derniers morceaux de pain qu'ils ont. Et ça, c'est étonnant, malgré les États qui ont la ferme volonté de fermer leurs frontières.
Alors donc, plus qu'une menace, ils sont une chance pour l'Europe. Cela crée des emplois. En Italie du Sud, par exemple, les fonds européens permettent de créer des emplois et génèrent de l'activité, notamment autour de l'accueil, l'arrivée de ces populations. D'autre part, on peut se poser aussi la question de « est-on bien conforme à la Convention de Genève sur les réfugiés ?»
Oui, parce qu'on est à 90%, ce sont des personnes qui viennent de zones où le conflit est visible, où on sait très bien que leur vie est réellement en danger. Donc
sortir par l'eau de cette crise est positif.
Oui.
Et alors, en Allemagne, on a l'intégration comme horizon.
Oui, parce que les Allemands, je pense qu'effectivement, ils se disent, ils sont là, c'est pas la peine de se fermer les yeux, c'est pas la peine de fermer nos portes. De toute façon, je me souviens, un responsable du HCR en Afghanistan, il y a 15 ans, disait toujours, avec les réfugiés, je suis désolée d'utiliser cette métaphore peu humanitaire, mais c'est comme de l'eau, si vous les arrêtez sur une frontière au nord, ils reviendront au nord-est ou au nord-ouest. Je veux dire, quand les gens n'ont plus rien à perdre et que leur vie est en danger, ils feront tout pour quitter le champ de bataille, quitter les bombes. Donc, si on se ferme les yeux, si on ferme nos frontières, de toute façon, ça sera pour que d'autres viennent et ils auront un autre moyen de passer la frontière. Donc, autant prendre le problème tel qu'il est, autant faire en sorte qu'ils soient légaux plutôt que ce soit des illégaux, des sans-papiers. Pourquoi en faire des parias de la société quand on peut essayer de les intégrer et utiliser au mieux leurs compétences et cette force de travail en bonne santé?
Alors écoutons Emma Dudine, dont on avait parlé au début de l'émission, qui nous dit « L'avenir, c'est trop tôt pour y penser. Nous sommes simplement heureux d'être en sécurité, de pouvoir respirer l'air frais. Et nous sommes impressionnés par l'aide que nous apportent les gens du fond du cœur. » Donc, solidaire malgré tout, en partageant les cultures, eh bien, l'intégration est un devoir partagé, et puis c'est quelque chose de positif, comme on le voit, comme on l'entend, lorsque certains disent « Nous sommes bien conscients de cette aide apportée par les gens du fond du cœur. » Donc, quelquefois, l'Europe politique se ferme, mais les hommes ont du cœur. Bonne semaine à tous. Au revoir.